Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, tous les 15 jours, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast, ou bien, tout simplement, sur notre site internet basilicpodcast.com. Basilic a soufflé sa première bougie la semaine dernière et je tenais à vous remercier pour les nombreux messages d'encouragement que j'ai reçus. Pour célébrer ce premier anniversaire, j'ai la chance de vous proposer 10% de réduction sur le site internet Clo, un concept store européen à destination des hommes et des femmes dont le but est de démocratiser la mode écologique et éthique. Ce site a une place spéciale dans mon cœur parce qu'il a été créé par deux auditeurs, Gaëtan et Isma, qui vous présenteront plus en détail leurs projets sur le site internet de Basilic la semaine prochaine. Mais en attendant, ils ont gentiment accepté de vous offrir 10% de réduction sur leur plateforme et je les remercie. Cette semaine, nous restons dans la thématique de la mode, puisque je reçois Stéphanie Fallen, fondatrice de Made in More. J'ai rencontré Stéphanie dans ses locaux à Liège, en Belgique, et nous avons énormément discuté. Dans cet épisode, Stéphanie revient aussi sur la difficile décision qu'elle a été forcée de prendre il y a près d'un an, à savoir le dépôt de bilan de sa propre société et de sa propre marque. Elle vous raconte comment, finalement, Made in More a pu renaître de ses cendres quelques mois après seulement. C'est avec une grande humilité et quelques trémolos dans la voix que Stéphanie a réussi à prendre la parole au micro de Basilic et à revenir sur les circonstances de cette mésaventure. Comme le dit si bien Stéphanie, il faut croire en son projet et y croire jusqu'au bout. Je vous laisse découvrir son parcours qui ne manquera pas de vous surprendre. Bonne écoute à tous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans tes locaux à Liège, donc en Belgique.
Plaisir.
Première fois que je reçois un ou une Belge chez Basilic, donc c'est top. Parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fait des trucs bien.
Ah non, et ça, je peux même t'en conseiller d'autres éventuellement. Des super Belges qui font des super chouettes choses.
Pour mon prochain passage en Belgique.
Voilà.
Alors Stéphanie, toi, tu es à l'origine de la marque Made in More, qui est une marque de vêtements équitable. On va revenir un petit peu sur ton parcours et tout ça. Tout a commencé en 2013.
C'est ça, 2013, ouais.
Quand tu as décidé de quitter ton boulot, tu bossais, j'ai vu sur Internet, dans la chimie. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai un diplôme. Je ne sais pas quoi ça peut, ça peut être par rapport en France, mais bref, c'est ingénieur de gestion. Donc, c'est HEC. J'ai fait HEC ici, en Belgique. Et donc, après mes études, donc je suis sortie en 2009 et j'ai directement travaillé dans le secteur de la chimie industrielle, donc une multinationale un petit peu qui vendait des produits un petit peu comme Monsanto. Donc, c'est vraiment dans les phosphates, engrais et autres. Après, je n'ai pas quitté, donc j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans à l'international. J'ai vraiment beaucoup appris pour ma... J'ai vraiment acquis beaucoup d'expérience entrepreneuriale grâce à ce métier où j'ai vraiment rencontré plein de gens super. Donc, mis à part le produit qui... Voilà, on est d'accord, on va pas épiloguer là-dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup appris pendant ces 4 années sur la manière dont un gros groupe fonctionne, aussi pour pouvoir par la suite l'appliquer dans ma petite entreprise et petite start-up. Ouais. Mais donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, avant de démissionner et de créer Made in More, ouais, en 2013.
Mais en 2013, qu'est-ce qui t'a amené justement à la slow fashion, à la mode éthique? Parce qu'on en parlait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ce n'était pas une des problématiques. Autant il y avait la problématique de l'alimentaire en bio.
Ouais.
Cosmétique, ça commençait à peine. Mais les vêtements, c'était pas du tout la question, le sujet, comme ça peut l'être aujourd'hui, quoi.
Non, clairement, il y a 5 ans, donc comme tu dis, c'était la nourriture, oui, ça évidemment, voilà, ouais. Pas besoin, plus besoin d'épiloguer sur le sujet. Par contre, les vêtements, c'était, il y avait eu par contre en 2013, donc quand moi j'ai lancé la société, c'était cette année-là qu'il y a eu l'effondrement du building au Rana Plaza, ouais. Bangladesh. Okay. Donc même si, donc moi, je l'ai lancé en 2013 et ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais l'idée en tête, mais j'osais pas trop, je le sentais pas, enfin, je me sentais pas, j'avais pas assez confiance en moi pour le lancer. à ce moment-là, je me suis dit, ah, les gens sont vraiment en train de prendre conscience. Il y a eu cet événement et bon, bah, c'est pas à cause de cet événement que je l'ai lancé, mais en tout cas, cette année-là, il y a eu ça. Et puis là, sur les 5 dernières années, c'était un boom assez, assez incroyable. Donc, j'étais pas complètement folle au moment de le lancer. Et pour revenir à ta question, moi, si j'ai voulu lancer Made in More, c'est... En fait, ça remontait initialement à mes études. Donc, c'était encore avant, quand j'étais ici à l'université, dans cette école de commerce, où on m'apprenait à la fois l'économie, les statistiques, la physique, le marketing, enfin, voilà, tout ce qu'on apprend en école de commerce, en même temps qu'on vivait la crise de 2008, des délocalisations... de la crise des subprimes, le monde financier, bancaire s'écroulait. Et quelque part, quand t'es étudiant, tu enregistres tout ce qu'on dit, mais tu enregistres aussi ce qui se passe autour de toi. Tu te poses beaucoup de questions. T'as pas encore vraiment de pouvoir d'achat. T'es toujours étudiant, donc tu sais pas tellement ce que c'est de devoir payer des factures, trouver un boulot qui a du sens, etc. Enfin, c'est un petit peu entre deux. Et à ce moment-là, donc je devais être en avant-dernière année, je me suis dit non, mais moi, je serai entrepreneur. Oh, ça, c'est sûr. Je le dis à personne, j'ose pas parce que j'ai pas confiance. Mais au fond de moi, ça, c'était certain. Avant mes 30 ans, j'aurai mon entreprise, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et je veux absolument, ça c'était vraiment ce qu'il y avait dans mes tripes, je veux une consommation juste pour le consommateur tout en étant rentable pour le producteur. Je ne suis pas une bio-bobo-écolo militante du tout, même si je respecte. Hein. Mais je veux une économie juste et d'après moi, elle n'est pas juste comme elle est là. Et donc, c'est de là que ça a commencé à mûrir. Et je pense que si j'ai été vers le secteur de la mode, parce qu'initialement, moi, j'avais en tête de faire un concept store avec tout, de la nourriture, des vêtements, de la déco, en gros, tout ce que tu achètes, mais qui soit fabriqué localement, de manière respectueuse et surtout vendu de manière hyper transparente pour le consommateur. Donc voilà, c'était l'idée initiale. Et puis, au moment de le lancer, 4 ans plus tard, je me suis dit, bon, ça va quand même être compliqué si tu veux faire tout. Et j'ai naturellement été vers la mode, je crois, parce que, c'est un secteur qui m'intéresse. Ça a toujours été... ma mère a fait des études de couture. Elle n'est pas couturière, elle travaille dans l'aéronautique, rien à voir. Mais en tout cas, c'est... Il y a toujours eu une machine à coudre à la maison. Il y a toujours eu une machine à coudre chez ma grand-mère aussi. Ça fait un peu partie du quotidien, comme ça. Et en même temps, dans mon métier, donc je travaillais 4 ans, femme d'affaires, on va dire ça comme ça. Je voyageais tout le temps, j'étais dans les aéroports, à gauche, à droite. Je ne pouvais pas m'habiller avec un pantalon en toile de jute en sarouel. Je devais m'habiller de manière classique et hyper pro et je ne trouvais pas. Et pourtant, j'étais plus étudiante, j'avais un pouvoir d'achat correct. Je ne trouvais pas des vêtements qui soient fabriqués de manière transparente, éthique, correcte et jolie pour la jeune femme active, on va dire ça comme ça. Hein, donc tout l'un dans l'autre m'a fait me dire je veux aller là-dedans. Et en même temps, on commençait aussi à avoir des rapports sur Internet et des documentaires sur l'impact de la mode, le fait que c'est la deuxième industrie la plus polluante, qu'il y a une personne sur 6 dans le monde qui travaille dans l'industrie textile, c'est énorme. Que ce soit de la chaîne de production, logistique ou autre, c'est quand même incroyable. Donc tu dis, et là tu dis ouais, ok, c'est peut-être, ça peut paraître futile, mais en réalité, t'as un sacré impact. Quoi.
Il y a vraiment quelque chose à faire.
Il y a un truc à faire. Et si je le fais, ça va être bien et je vais avoir un impact. C'est ça que je voulais, moi, avoir un impact positif.
Et à ce moment-là, pour trouver les marques, t'avais déjà une idée ou est-ce que t'as cherché pendant que t'avais encore ton boulot ou...
Ouais, j'ai beaucoup cherché. Je me souviens, faudrait que je le retrouve, j'avais un carnet avec toutes mes idées et pendant mon boulot je cherchais je notais plein d'idées et au fur et à mesure de mes recherches des heures le soir je faisais que ça je notais des marques qui correspondaient à mes critères
ouais.
Qui étaient vraiment le fil rouge, c'est une fabrication locale en Europe et une dimension hyper transparente et si possible, respectueux de l'environnement dans le sens au niveau des matières. Donc polyester, non, même si parfois il y en a un petit peu. Et bon, bah, je devais faire des concessions. Mais voilà, ça, c'était vraiment le fil rouge. Et donc, non, pour répondre à la question, c'était au début. C'était pas évident. J'avais un carnet rempli, mais des dizaines d'heures de recherche. Donc, ça n'a pas été facile, mais je les ai contactés. Je me souviens, la toute première, c'était une liégeoise qui est très connue ici, qui fait des bonnets, qui est vendue aussi à Paris, un petit peu partout, qui s'appelle Delphine Quirin. Et je me revois à la maison, je n'osais pas téléphoner, je n'osais pas appeler, alors que c'est une liégeoise, enfin, je veux dire.
Oui.
Mais je me revois, je dis, allez, maintenant tu y vas, on prend son courage à deux mains, on appelle. Et directement, le courant est vraiment super bien passé et ça a permis de aussi me donner la confiance pour contacter les autres. Ouais. Quoi, voilà.
Pas évident.
Quelle aventure. Non.
Et donc, au début, ton idée, c'était vraiment juste un site, une marketplace, quoi, qui pourrait recenser des vêtements, mais voilà, pour l'homme, la femme ou que la femme.
Alors, c'était que la femme. Et donc, ouais, mon idée, c'était vraiment de répondre à un besoin. Moi, je me disais, je suis une jeune femme active, j'ai pas le temps de chercher. Donc, moi, je vais donner aux femmes actives un marketplace où elles n'ont pas à chercher. Moi, je leur donne la garantie que tout est clean et tout est OK. Et je déniche des marques qui vont dans le sens des valeurs que je défends.
Ouais.
Voilà. Avec en plus le petit truc qui me tenait vraiment à cœur, c'était de visiter les ateliers de production avec ma petite caméra, mon petit sac à dos, et d'aller filmer les ateliers pour pouvoir les montrer aux clients sur le site.
Ah ouais,
et
génial.
Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais absolument faire et qu'on a toujours fait depuis le début pour montrer les ateliers. Je crois que le cerveau humain aujourd'hui est tellement matraqué d'informations partout, tout le temps, que ce soit du marketing, que ce soit des vidéos, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les mails, que ce soit tout, on est complètement noyé. Si on ne montre pas clairement, facilement, qu'un objet est fabriqué quelque part par quelqu'un, on a tendance à l'oublier aujourd'hui.
Ouais.
Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur.
Bah, c'est sûr que quand on va faire du shopping dans les grandes enseignes, on essaie justement d'oublier ce qui se passe
voilà.
De l'autre côté.
Voilà.
Donc c'est bien, je ne savais pas que tu avais fait ça, que tu avais filmé et tout.
Ouais.
J'imagine que tes clients, du coup, étaient vraiment soulagés et que ça répondait à leurs attentes, à leurs questions.
Oui, c'était pas nécessaire, mais moi, il y avait vraiment une dimension... Une dimension pédagogique ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais de déclic que j'avais envie qui est dans la tête des gens.
Ouais, que ce soit pas qu'une expérience shopping,
non,
mais que ce soit aussi, voilà, regardez comment ça se passe, vous pouvez effectivement voir le lieu de production. Et tout
du
ça,
coup,
quoi.
Les gens, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, en fait, il y a des ateliers en Belgique encore. Enfin, non, je dis Belgique, parce que malheureusement, on n'en a pas, mais en France, en Angleterre, ah tiens, tout n'est pas parti en Asie, bah non, regardez. Et vous savez, il y en a beaucoup plus que vous le croyez, des ateliers aussi qui ne demandent qu'à produire des vêtements pour vous. On peut faire en Europe à des prix identique à Benetton, hein. Ah ouais, tiens. Et alors les gens, ils disent, ah oui, très surpris.
Petit à petit, ça fait son chemin.
Voilà,
ouais.
Voilà.
Et donc 2 ans après le lancement, donc ça c'était en 2013, et 2 ans après, c'était pas assez pour toi, t'as voulu créer ta propre marque de vêtements.
Rien n'est jamais assez.
Est-ce que c'était pour... parce que tu trouvais pas les vêtements que t'avais en tête, est-ce que c'était pour répondre à ça, ou c'était juste curiosité de se lancer dans cette aventure de stylisme et de conception et tout ça?
En fait, maintenant, quand j'y repense, si tu veux, il y a eu plusieurs éléments en même temps qui ont fait que j'ai lancé notre marque en dur, en propre, et que j'ai un petit peu laissé tomber les autres marques. Deux ans après le lancement, j'ai fait une première levée de fonds avec des investisseurs privés et publics. Et au moment de préparer cette levée de fonds, donc tu discutes, tu passes ta vie à présenter ton business plan, ton plan financier, tu discutes, t'argumentes. Et je me suis beaucoup fait conseiller aussi à ce niveau-là, des personnes ressources. Et la question de la marque propre revenait systématiquement. Si ouais, mais Stéphanie, si tu fais que du pur retail, achat-vente, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir scaler, créer de la valeur. Même si le concept est super, voilà, pas de souci là-dessus. Donc il y avait à chaque fois, ah tiens, et est-ce que tu vas faire ta marque ? Est-ce que tu vas faire ta marque ? Est-ce que tu vas faire marque Made & More ? Donc au fur et à mesure, à chaque fois, on te pose la question 10 fois, tu dis tiens, peut-être qu'il faudrait l'envisager.
Oui, si tout le monde y pense, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire.
En même temps, il y avait les clientes qui nous demandaient aussi ce que vous pensez peut-être vous lancer. Et puis moi, à chaque fois, je dis oh non, je sais pas trop, tu sais, je suis pas. Je me sens pas assez confiante ou. La confiance en soi, ça revient souvent. Hein. Je me sentais pas légitime ou. Enfin voilà, tu vois. Mais les clientes demandaient aussi. Et en même temps, j'avais en tête qu'un jour peut-être, mais c'était, c'était à l'horizon 5-6 ans, oui, on lancera notre marque, mais dans longtemps. Tous ces éléments-là, à un moment donné, ont fait que je me suis dit, je me suis dit, bon, ok, on va le faire, on va lancer une marque, on va le faire. Et en 3 mois, on avait les premiers protos.
Et là, pour ça, tu étais toute seule ou...
Ouais,
j'étais épaulée quand même.
J'avais une amie, pas une amie, à cette époque-là, c'était une connaissance qui était styliste, une liégeoise qui était partie à Paris, Elisa. Et donc je l'ai contactée et pour voir si on pouvait un petit peu bosser ensemble, je sais pas trop comment faire, par où commencer. Donc on a bossé ensemble sur la première ligne. Moi j'allais de toute façon dans le salon professionnel. Donc j'étais aussi dans les salons professionnels plutôt destinés aux producteurs, donc là où tu as les boutons, les tissus, les ateliers. Et puis j'ai cherché, j'ai trouvé très rapidement un atelier de fabrication en France, je les ai appelés, j'ai expliqué ce qu'on voulait faire. 2 semaines après, j'étais sur place, je crois, quelque chose comme ça. Et on a discuté, et j'ai acheté du tissu et on a fait des protos. Ah, c'était un petit peu aussi simple que ça. Tu vois, j'ai activé mon réseau parce que je te disais, il y a quand même pas mal de femmes entrepreneurs ici en Belgique qui ont des projets géniaux et qui sont vraiment hyper balèzes, que j'ai pu aussi contacter. Qui, tiens, tu connaîtrais pas fournisseur qui ? Ah bah si, tiens, appelle-le lui de ma part. Et ça a été assez vite en fait.
Et en fait, ça a été plus vite que ce que tu pensais.
Oui.
Et est-ce que tu crois que c'est ça qui t'a justement aidé, parce que tu dis voilà que t'avais pas trop confiance en toi. Est-ce que le fait que ça a été très vite, ça t'a un peu, d'une part, empêché de réaliser ce qui se passait et te dire « oulala, là, je prends vraiment des risques » ou « oulala, mais si, ça plaît pas, si, machin » et à tourner mille questions dans ta tête, quoi.
Clairement, c'était nécessaire. Donc, comme j'étais en pleine phase de levée de fonds et ça devenait urgent, il fallait absolument que cette levée se clôture. Je sentais qu'il fallait amener de la nouveauté, qu'il fallait le faire, qu'il fallait pas réfléchir 1000 fois, quoi. Donc... Donc, je crois que ça a aidé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai découvert, je suis en train de terminer son bouquin, une super, super femme. Mel Robbins, c'est la règle des 5 secondes. Et alors, elle a une chaîne YouTube avec plein de vidéos sur ce principe des 5 secondes. Où, en fait, l'idée, c'est de se dire que le cerveau, quand il a une intuition, un instinct, une idée d'office, il va très rapidement trouver tous les moyens pour ne pas le faire, pour être en confiance et en confort. Et dès que tu veux faire quelque chose qui va un petit peu au-delà, sortir de ta zone de confort, ton cerveau dit « non, 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 moi, on va rester bien, on va se protéger et on va rien faire du tout. » Et donc, les 5 secondes, c'est le gap pendant lequel tu dis « non,
il faut le
je
faire.
Fais. » Tu vois. Et c'est vraiment super intéressant, super motivant. Et encore maintenant, ça m'aide aujourd'hui. Vraiment se dire « allez, réfléchis pas, fonce. »
Et alors, bon, bah, du coup, t'as lancé ça. Et malheureusement, 2 ans après, c'est ça, hein, deux ans, à peu près.
Ça se fait un petit peu en cycle de 2 ans chez moi. Après 2 ans, une première levée de fonds. Après 2 ans, un dépôt de bilan. Là, maintenant, encore 2 ans après, une relance.
Donc, 2 ans après, donc 2017 à peu près, tu as annoncé ta faillite, ton dépôt de bilan. Donc, ça a été une surprise, une mauvaise surprise pour beaucoup de clientes, Même aujourd'hui, tu vois, là, quand je préparais l'interview, je cherche Made and More et tout ça, et je retombais sur des articles que j'avais vus passer à l'époque, mais de jeunes filles, de blogueuses qui disaient « Oh, mais je comprends pas, c'est tellement dommage qu'une belle marque comme ça s'arrête. »
Si tu savais le nombre d'emails que j'ai reçus...
J'imagine.
Oh là là. Ouais.
Et tu as été contrainte de prendre cette décision. Comment tu te relèves après ça? Parce que là, on est dans tes bureaux, ça y est, Made and More, tel le phénix, renaît de ses cendres. Mais comment t'as géré tout ça? Ça me paraît surréaliste.
Moi aussi. Aujourd'hui, là, voilà, je suis OK de pouvoir en parler avec toi sans verser une petite larme. Comment on se relève? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois qu'il faudra encore peut-être 6 mois ou 1 an de recul pour pouvoir vraiment clarifier certaines choses. Donc là, aujourd'hui, je te parle et ça fait 8 mois, le dépôt de bilan. Et la relance, 3 mois. Je t'avoue que au moment du dépôt de bilan, ce qui était très, très, très difficile, c'est que ce n'était pas prévu. Je n'étais pas prête. C'est un petit peu comme si tu perds un proche, soit parce qu'il a une longue maladie et donc tu peux plus ou moins t'y préparer, soit tu as un accident de voiture et tu te dis « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» C'est soudain. Et je me souviens, on revenait de... En plus, on faisait pas mal de pop-up stores. Je revenais d'un pop-up store qu'on avait fait à Paris avec l'équipe, qui était vraiment super. Et je reviens le vendredi, un petit peu en urgence, pour préparer un conseil d'administration extraordinaire qui a lieu le lundi. Et le lundi, décision est prise. Et je prends la décision. Je suis forcée de prendre cette décision. D'arrêter tout. Donc... S'en est suivi quelques semaines dans le brouillard. Je ne saurais même pas te dire qui j'ai vu. Enfin, plus ou moins, oui. Mais flou complet. Tu te dis, c'est un mauvais rêve, c'est pas possible. On va se réveiller, c'est une blague en fait. Sauf que c'est pas une blague. Et dans tout ça, je pense que... Ce qui m'a permis de tenir, d'une part, ça a été de vraiment prendre conscience que j'avais été un petit peu trop loin dans mes ressources internes, fatigue, stress, tout ça. Donc j'en ai vraiment pris conscience et j'ai pris le temps de me reposer pour du vrai. Donc j'ai dormi un nombre d'heures incalculable. J'ai décidé de prendre le temps. Le temps qu'il fallait pour reconstruire quelque chose et me remettre. Et en parallèle, comme je te disais, j'ai eu... Je voulais pas que ça se passe. En fait. Je voulais pas que ça se sache. Ce qui est complètement con, puisque on avait un article de presse toutes les semaines. Enfin voilà, ici en Belgique, on a vraiment une super bonne relation avec. On est très soutenus.
Vous êtes. Tu vois, très apprécié.
Qui était complètement con comme pensée, mais je me disais non, je veux pas. Les gens vont être déçus. Et puis je sais pas quoi raconter. Je sais pas quoi dire. Je veux pas. Je suis trop triste. Enfin non.
Et puis aussi le fait que ça se sache, ça rend la chose encore plus réelle.
Ouais. Parce que tu te dis quand même à un moment donné, non, c'est pas possible, on va trouver une solution, j'en sais pas comment, mais tu vois. Mmh. Et quand ça s'est su, je me souviens, donc moi j'avais déserté les réseaux sociaux, ça aussi c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. J'ai quitté tout pendant 2 mois, je crois. Vraiment me recentrer. Et c'est mon compagnon qui m'a dit, écoute, Steph, ça commence vraiment à se partager beaucoup là, il faut que tu fasses un petit mot, que tu t'exprimes, enfin, juste un petit mot, quoi. Je me dis, OK, ça va. Donc, j'ai ouvert mon ordinateur, chose que je n'avais pas fait depuis quelques jours, et j'ai vu tous les messages que j'avais reçus de partout, des gens que je ne connaissais pas, des proches, évidemment, aussi, des amis qui ont vécu cette aventure depuis le début. Et la bienveillance de ces messages était complètement dingue. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mmh. C'était C'était courage, merci, beaucoup de remerciements d'avoir, d'avoir insufflé au changement, que grâce à Made in More, ils pensaient autrement aujourd'hui, que,
et d'avoir, puis que, essayé.
D'avoir essayé. Que l'entre... Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai lu tout ça, ça m'a donné le courage de faire un dernier, entre guillemets, petit mot sur les réseaux. Sans entrer dans les détails, mais de remercier tout le monde et de dire que bientôt, je ne sais pas comment, mais on reviendra. Ou je, enfin bref, mais qu'en attendant, j'ai besoin d'un petit peu de repos. Et voilà, tout l'un dans l'autre. Tout l'un dans l'autre. Je pense, tu sais, parfois on dit que la vie est bien faite, puisque ce dépôt de bilan a eu lieu, non pas parce que ça ne marchait pas, au contraire. Et c'est ça qui était un petit peu compliqué, de pouvoir aussi expliquer à la presse qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé si ça va si bien. Mais, oui, mais on était en phase de deuxième levée de fonds.
C'est d'autres enjeux.
C'est d'autres enjeux, tu vois. Et si ça s'est arrêté, c'est pas parce que ça n'allait pas, c'est parce que cette deuxième levée de fonds n'a pas pu se conclure alors qu'elle avait été expressément validée. Et que donc des frais ont été engagés sur base de cette décision et les deux actionnaires, les deux autres n'ont jamais réussi à s'entendre sur des bêtes petites conventions.
Ouais.
Voilà, parfois le bon sens ne prime pas sur d'autres choses. J'en suis la preuve. Donc voilà, comment tu expliques
ouais, pas facile.
Qu'en fait non, les chiffres étaient en croissance tous les mois, que c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué, et c'est compliqué pour le consommateur aussi, parce que quand t'es pas dans l'entreprise, dans les,
parce qu'on dit en fait l'éthique ça marche pas,
voilà,
bah
c'est ça.
Si, parce que, et moi aussi tous mes pairs payeurs du secteur me disent Stéphanie, qu'est-ce qui se passe, c'est un super mauvais signe pour le secteur et tout ça, mais ils étaient au courant, mais évidemment tu as pas commencé pour le t'as pas commencé à détailler le fonctionnement d'une levée de fonds, des enjeux, des trucs, enfin tu vois. Donc c'était vachement dur, et moi la décision que j'ai prise c'est de faire un petit message, voilà, et puis de couper tout, de réfléchir et de voir comment on allait affronter ça. Et ça n'a pas été facile du tout. Après la chance que j'ai eue, quand je dis parfois la vie est bien faite, donc j'ai eu la chance de rencontrer à peu près 7 à 8 mois avant le dépôt de bilan mon associé d'aujourd'hui, Maxime. C'était un client, il a fait HEC pas en même temps que moi, il est un petit peu plus jeune que moi, mais on s'est rencontrés initialement, on se croisait à l'école, à l'université, et il est devenu client de Made in More. Et au fil du temps, vraiment, bah, il venait régulièrement, puis on discutait, et moi j'étais donc dans cette phase de deuxième levée de fonds, hein, on parlait de gros sous quand même, et je devais du coup agrandir l'équipe. Et donc je voulais trouver les meilleurs profils pour mon équipe. J'avais déjà deux super filles, Charlotte et Aurélie, qui malheureusement, à qui j'ai dû annoncer qu'elles n'avaient plus de boulot le jour du, hein, de voilà. Et donc je voulais continuer à faire grandir cette équipe. Et je voulais engager Maxime, parce que super profil, adorable, tu sens vraiment, je sentais une gentillesse, il partage les valeurs de Made in More, complètement fan d'une marque, je ne sais pas si tu connais Patagonia, hein, et ça faisait 4 ans qu'il travaillait chez Google, et il venait de en Irlande, et il venait de revenir depuis quelques mois chez Google en Belgique. Donc super, enfin vraiment top, on s'entendait vraiment bien. Et donc on a commencé à discuter pendant plusieurs mois pour qu'il puisse rejoindre l'entreprise. Initialement, moi je voulais le débaucher. Et la discussion a tourné en j'aimerais peut-être éventuellement quand même rejoindre plutôt vraiment en tant qu'associé. Et moi ravie parce que j'ai lancé toute seule, mais j'avais toujours en tête de potentiellement trouver quelqu'un pour qu'on puisse être à deux en binôme, parce que je pense que je confirme aujourd'hui c'est bien mieux d'être en binôme, mais il faut pas attendre d'être en binôme pour lancer quelque chose. Si j'avais attendu, j'aurais jamais lancé Made in More, tu vois. Et donc on discutait et ça allait se faire. quelques mois, il allait rejoindre l'entreprise. Et donc, au moment du dépôt de bilan, où tu dois quand même, aux yeux de la loi, expliquer ce qui s'est passé et justifier. Hein. Donc, j'ai pu expliquer tout ça face à un curateur qui nous a permis... on a été très bien accompagnés aussi à ce niveau-là. Ça a permis de racheter, en fait, l'entreprise. Parce que quand tu fais faillite, ben, tu, plus rien ne t'appartient. Mais
tu la mets en vente.
Ouais. L'idée, mis à part... tu vois, si tu ne prends pas tout ce que ça représente de point de vue émotionnel, les valeurs qu'il y a derrière, ben, ça reste une entreprise avec du stock, une image de marque, une communauté. Et ça vaut quelque chose et ben, il faut rembourser les créanciers.
Bien sûr.
Et payer ses dettes. Et... Donc le curateur, il voit comment il peut au mieux... valoriser tout ça pour faire face aux dettes, quoi. Et donc, on a eu cette opportunité, cette chance de pouvoir recréer une deuxième société et de racheter la marque, le site, le stock. Je n'aurais jamais imaginé ça possible. C'est le jour, c'est peut-être deux semaines après ce conseil d'administration que le sujet est venu et où moi, je n'étais pas encore en état de prendre de réelles décisions, en réalité. Donc j'ai remis la décision entre les mains de ma famille proche, de mon compagnon, et qui m'ont vraiment dit, écoute, tu ne peux pas laisser tomber tout ça. Surtout qu'il y a maintenant Maxime qui est là, vous formez un super binôme. Enfin, il faudra que tu prennes le temps, tu vas pas relancer tout de suite, mais sauter sur l'occasion, l'opportunité de pouvoir au moins conserver tout ce qui a été fait, quoi, la marque, tu vois.
Pas perdre toutes les années de boulot, les heures de travail.
C'est ça. Et donc ça s'est fait, 31 décembre 2017. Et après, donc, il a fallu encore jusqu'au début mai pour vraiment relancer, remettre le site on, informer les clients, comment commencer à communiquer, etc.
Vous êtes repartis, juste Maxime et toi, sans investisseurs extérieurs. Et pour l'instant, vous êtes tous les deux ou vous êtes entourés?
On est en train de lever des fonds.
D'accord.
Voilà, okay. Parce que forcément, il faut...
vous en avez besoin.
On en a besoin.
Ouais.
Et donc, ce qu'on a fait, c'était... On a attendu le mois de mai. Moi, j'ai encore pris du temps pour moi. Janvier, février, mars, je me suis reposée, même si, étant un petit peu hyperactive, j'ai suivi une formation à Paris en économie circulaire que j'ai adorée. J'ai commencé à écrire un livre pendant ces deux mois-là, de nouveau sur la transformation durable en entreprise. Donc j'ai quand même mis ce temps-là à profit, mais ça m'a vraiment permis de me recentrer à l'intérieur, de me rappeler pourquoi j'avais lancé ça, pourquoi j'avais tout quitté pour faire ça, parce que j'avais l'impression que j'étais tellement dans une spirale de... Une spirale de travail, de faire tout, de grandir, de développer avec plein d'idées, etc., j'avais oublié.
Oui, tu t'étais laissé emporter et en fait de trop centrer, ça t'a permis de retrouver une énergie, une volonté.
De réavoir des idées, de voir les choses beaucoup plus clairement.
D'être plus sereine aussi.
D'être beaucoup plus sereine. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est de pouvoir me recentrer au pourquoi j'avais fait ça, pourquoi finalement. Et pourquoi s'infliger tant de sacrifices. à quoi ça rime tout ça. Parce que ça s'est terminé fin 2017, mais je venais de vivre 8 mois atroces de stress et de pression, parce que cette levée de fonds, deuxième levée de fonds, a duré 8 mois de discussions et d'aller-retour. Enfin bref, c'est compliqué de tenir. Parce que tu veux bien faire, parce que je veux bien faire et que
oui, et puis c'est
ton
projet,
et que je veux que ça se passe, et que je voulais que les choses avancent, que l'équipe soit bien, que la levée de fonds se fasse, que et puis toi, bah tu...
Oui, des fois, comme on dit, tu sais, t'as la tête dans le guidon et tu regardes pas ce qui se passe autour. Non. Et c'est ça, quand tu lances ton projet, j'imagine que t'es à fond.
Voilà.
Mais t'oublies aussi de lever le pied et de reprendre un peu de recul en disant, attends,
C'est ça.
Comment ça se passe, là?
Et donc, finalement, je me dis, comme dirait ma sage maman, n'oublie pas de toujours te rappeler que la vie est belle, quoi qu'il arrive. Donc, dans les premières semaines, la vie n'est franchement pas belle. Mais après coup, je me dis, ben, tu vois, si ce n'était pas arrivé, je n'aurais pas eu l'occasion de prendre ce recul. Aujourd'hui, on arrive sur une gamme et sur des projets beaucoup plus aboutis. Et je ne pense pas qu'on serait arrivé là si j'étais restée dans ce cycle d'avant. Maxime fait partie de l'entreprise. Ça n'aurait pas été si facile de le faire entrer. J'ai commencé à écrire ce livre. Je ne l'aurais jamais fait. Jamais, jamais, jamais. J'ai suivi cette formation en économie circulaire à Paris, je ne l'aurais jamais fait non plus. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc, ce que je retiens, c'est que même quand, au fond du fond, où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au secours, ma vie est foutue, j'ai tout perdu, j'ai tout foutu en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai 30 ans, je suis perdue, je suis perdue. Bah finalement, tu peux te relever, quoi.
Bah oui, t'en es la preuve.
Ouais, alors que je t'assure que mais j'y croyais pas, quoi.
Bah oui, et que c'est pas facile et que c'est difficile aussi au début de pas le voir comme un échec.
Ah bah oui, parce que tu te sens nul forcément. Donc voilà, je dirais que le soutien et me forçait à me reposer au calme, à m'aider à rebondir et être là aujourd'hui. Ce qui me paraît toujours un peu fou quand j'arrive le matin ici. Mais...
Et est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'appliquer au quotidien maintenant ou en tout cas toutes les semaines de prendre du temps off avec ton compagnon, avec ta famille, tes amis
Ah ça, je peux te dire qu'on ne m'aura plus deux fois à sombrer dans tant de boulot. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu as une fâcheuse tendance à trop travailler parce que c'est ta passion et que finalement, ce n'est pas vraiment du travail puisque c'est ta passion. C'est pas travailler. Donc, il faut une grande rigueur et une grande discipline envers soi-même. Parce que tout ce que je te raconte là, encore la semaine dernière, lundi dernier, je me suis levée à 6h du matin et j'ai travaillé de 6h30 à 22h. Parce qu'on avait une échéance, on avait un rendez-vous, il fallait... Après, j'ai eu la chance, mon compagnon me dit, Steph, pas de souci, il est entrepreneur aussi. Donc ça, c'est bien, il comprend... Attention, pas de souci, t'as une échéance, ça peut arriver, mais ne retombe pas dans tes travers. Et moi, j'étais pas malheureuse d'avoir travaillé autant. Au contraire, je trouvais ça trop bien, parce que j'avais fait plein de choses, j'ai fait avancer plein de trucs. Et donc, je suis en permanence en train d'être disciplinée envers moi-même, organisée. J'ai un petit rituel le matin. J'aime bien me lever tôt. Ça, voilà, ça changera pas. Mais un petit rituel pour moi le matin où je peux écrire. En fait, j'écris vraiment la seule et unique, la chose la plus importante pour moi que je veux accomplir aujourd'hui. Pour moi, pas pour les autres, pour moi. Je commence par ça le matin. Et puis après, ça suit. J'essaye un maximum aussi de me mettre une heure dans la journée à laquelle j'arrête. Et je respecte pas toujours, mais j'arrête.
Essayer de
tenir, et je rentre à la maison et ou lire un petit peu un bouquin, donner la priorité aussi à la famille et les amis.
Ça, ce serait ton conseil pour tous les gens qui ont envie de se lancer, justement, même s'il faut y aller à fond, aussi de s'accorder du temps. Est-ce qu'après, on voit les choses plus clairement aussi?
Clairement, parce que si tu t'octroies, ne fût-ce que aller une demi-heure pour aller courir, se balader, prendre l'air, tu vas avoir des idées. Tu vas... je sais pas moi, un projet ou un truc qui est un petit peu compliqué et tu le retournes 10 fois dans ta tête, ça va s'éclaircir. Et c'est pas en étant en travaillant jusque 20h, 21h, 22h que ça va s'éclaircir. C'est en ayant prendre l'air que ça va s'éclaircir. Donc clairement, je conseillerais d'être discipliné envers soi-même, en fait, parce que
Ouais, c'est important.
Parce
pour,
que
pour
les
durer.
Gens qui se lancent, c'est leur passion. Ils se lancent dans leur passion. Donc c'est dur de pas d'arrêter ta journée. En fait.
Bah oui, forcément, t'as pas envie. Puis t'as pas l'impression, comme tu disais, t'as pas l'impression de travailler. Donc.
T'as pas l'impression de travailler. Donc c'est hyper insidieux. C'est ce dont on parle aussi beaucoup en ce moment, c'est pas tellement le fait de faire, c'est la charge mentale qui... La charge mentale de tout le temps penser à tout ce qu'il y a à faire, à tout ce que tu pourrais faire, à tout. C'est, on se rend pas compte, mais c'est pour devenir dingue, cette charge mentale. Il faut la baisser. Faire du sport, aussi. C'est pas nouveau, hein, mais il faut vraiment le faire. Vraiment pour du vrai. Et si on n'a pas envie, tant pis, on y va quand même. Courir un coup, faire du yoga, j'en sais rien, peu importe, mais se vider l'esprit.
Ouais. Mais ça, à Hong Kong, moi j'habite à Hong Kong et c'est vrai que les gens, tous les matins, peu importe l'âge, ils font leur petit sport dans les parcs, tai chi, yoga, course à pied, enfin n'importe. Mm. Mais ils prennent ce moment-là et c'est dingue parce que c'est vraiment ancré dans la culture, tu vois.
Et on est plutôt aussi dans une culture de la performance. Si tu restes pas jusque 18h30 au boulot, c'est que finalement tu travailles pas vraiment. Si t'es pas débordé, c'est que t'es fainéant, en fait. Tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un « Ah, comment tu vas ?» En général, c'est « Ah, je suis fatiguée, j'ai plein de boulot, je suis débordée. » Si tu dis à quelqu'un « Ah, super, ça va, tu passes pour un glandeur.
» Ouais, c'est vrai.
Tu vois, en Belgique, en France, si, c'est un petit peu... C'est un peu comme ça aussi.
Ouais, c'est une vision.
Il faut que ça évolue. Faut que ça évolue.
Mais ça va évoluer.
Oui.
Et alors aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur une nouvelle collection ? C'est quoi vos petits projets ?
Il y en a trop des projets. Tu vois, justement, il faut se calmer dans les projets. Mais donc concrètement, là, on travaille sur des nouveaux produits qui vont sortir bientôt. On a décidé de travailler différemment au niveau des sorties. Plutôt que de lancer, 10 modèles en septembre et puis 10 en mars et ainsi de suite. On a décidé de les lancer au rythme des ateliers et au rythme de chacun. Donc, on va sortir une pièce à la fois. Donc, on va peut-être sortir on va bien voir en fonction de nouveau de la vitesse de production des ateliers et autres. Un sweat pour homme, un sweat pour femme. Dans 3 couleurs, super bien coupées, etc. Je veux prendre le temps qu'il soit parfait. Et puis, 2-3 semaines plus tard, on va sortir un chemisier pour femmes en coton bio et recyclé, certainement. Je cherche encore le tissu parfait. Et ainsi de suite, donc vraiment sortir des produits petit à petit, au fur et à mesure, puis faire du réassort vraiment calmement. Donc ça, c'est pour les choses à venir. Pour les autres choses à venir, c'est d'être encore plus circulaire. Donc, comme je disais, moi, c'est vraiment... je pourrais t'en parler des heures. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit et au vu des enjeux qu'on connaît actuellement et de l'urgence qu'il y a à transformer nos modes de consommation, l'économie circulaire est véritablement la solution. C'est vraiment de se dire j'arrête d'extraire et j'arrête de jeter. Mais je continue à consommer et je continue à faire tourner l'économie et je continue à me faire plaisir. Hein. On n'est pas dans un truc où on va vivre dans une cabane et à manger des carottes. Hein. Tu vois, on continue, mais on change le début et on change la fin. Donc ici, tu vois, par exemple, dans les tissus, j'aimerais bien, pour le chemisier pour femmes, j'avais un coton bio super chouette, mais j'ai pu trouver du polyester recyclé mélangé à du coton bio recyclé. Du coton, non, pas recyclé, coton bio. Donc le fait de recycler, je n'extrais pas. Mmh. Et donc moi, j'aimerais bien à terme, et donc on fait ça pour tous les produits, à terme, ne plus avoir rien à voir qui ait été extrait. Tu vois c'est pareil pour le packaging. Là, récemment, on a dans la relance, en fait, on a changé 2-3 petites choses, dont l'envoi des colis. On n'envoie plus les colis dans des boîtes en carton. On envoie des colis dans des sacs réutilisables. C'est une marque finlandaise qui fait ça. Donc, tu reçois ton colis, c'est un sac jaune avec un velcro comme ça. Et en fait, tu le renvoies.
Ah ouais, génial.
Il est réutilisé. En plus, c'est incassable, ce truc. Donc, c'est réutilisé des centaines de fois. Plus de carton qui va à la poubelle. Tu vois ? C'est des petites choses, mais qui font une grande différence. Et donc, dans l'avenir, dans les projets, je dis d'avoir uniquement des tissus recyclés, de faire des partenariats aussi avec des associations type... ici, on a Terre en Belgique, un peu comme chez vous en France, Emmaüs, je crois, tu vois, ceux qui récoltent les tissus pour utiliser les tissus existants, ça sert à rien d'aller en reproduire d'autres, quoi. Tu vois, donc vraiment travailler sur cette notion de ne pas extraire, consommer intelligemment et ne pas jeter. Pour le ne pas jeter, nous on offre une garantie à vie, donc voilà, il n'y avait pas d'option pour pouvoir jeter, jeter les vêtements Made in More, mais c'est vraiment ça. Et puis alors, d'ouvrir une première boutique physique aussi, ça c'est une petite consécration dans le pré-Made in More, dans la Made in More V1, avant le dépôt de bilan, on avait fait 6 pop-up stores pour pouvoir se faire la main. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on va tester les villes, on va tester le fait d'ouvrir des pop-up, voir logistiquement comment on fait, en mode test, lean, tu vois. Et du coup, là, on a testé 6 villes et dans le plan, c'était prévu, après les 6 villes, d'ouvrir un premier point de vente. Donc ça, on ne change rien et on garde cette idée d'ouvrir un premier point de vente à Bruxelles et puis un par an par la suite, dans le plan.
Trop bien.
Voilà.
Bah là, déjà, le showroom est quand même super joli.
Merci.
Avec, ça donne un bon aperçu de tout ce que vous proposez. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est une belle aventure. Je suis contente qu'on ait pu en discuter.
Oui, moi aussi. Ça me fait toujours un petit peu bizarre, j'imagine, d'en parler, mais il faut, c'est bien. Et je veux surtout insister sur le fait qu'il faut, faut entreprendre et il faut continuer.
T'en es la preuve.
J'en suis la preuve. Oui, ça fait peur, mais preuve en est qu'on peut continuer sans avoir non plus des ressources. J'ai une maison à payer, je suis pas issue d'une famille riche, j'ai un crédit.
T'es comme tout le monde.
Je suis vraiment comme tout le monde. Ça aussi, j'ai insisté parce que parfois on se dit, ah ouais, mais non. Tu vois, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça. Ouais, mais à mon avis, il doit avoir gagné au loto, tu vois, c'est pas possible. Enfin, on s'invente des trucs. Non, je suis vraiment, vraiment comme tout le monde. Donc,
c'est bien de le préciser aussi.
Ouais, ouais.
Super. Alors, bon, pour tous les auditeurs qui connaîtraient pas encore Made in More, on les renvoie vers votre Instagram et votre site.
Ouais.
Et voilà, ils pourront découvrir tous les vêtements, sachant que vous faites hommes et femmes.
Oui. Et j'aimerais bien faire beaucoup plus encore pour hommes, mais on doit faire petit à petit. Pour l'instant, on a le pull, on a le t-shirt et alors les chemises aussi, ouais, qui en coton bio, toutes les deux là. Je suis en train de travailler sur des pantalons, puisque nos clients hommes nous demandent beaucoup des pantalons. Vraiment le pantalon, le beau pantalon, le beau chino.
Normal.
Normal, ouais.
Pas facile à trouver.
Mais non, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien pouvoir offrir, tant pour les hommes que pour les femmes, vraiment, tu sais, la garde-robe parfaite. Et d'ailleurs, c'est ce que nos clientes nous écrivent. Ah, des petites suggestions, au fait. Un beau chemisier, un beau blazer, un beau pantalon noir, un beau petit jeans, une petite marinière, une petite robe, et puis c'est bon. Voilà, et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci à toi.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à consulter le site internet de Made in More pour découvrir leurs très jolies créations. Toutes les informations sont, comme toujours, indiquées dans la barre d'informations. Encore merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram où je suis très active, ou alors Twitter et Facebook. À très bientôt !